VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 1er mars 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Nathalie Barge.
Pour commencer, les titres.
Un deuxième round pour parler prévu entre négociateurs russes et ukrainiens après la rencontre d'hier à la frontière du Bélarus.
L'Union africaine se dit préoccupée par le traitement infligé aux Africains voulant fuir l'Ukraine.
Au Burkina Faso, 3 ans de transition avant des élections, c'est ce que prévoit la charte signée par le chef de la junte.
En Guinée, des heurts ont été signalés hier entre des partisans de l'ex-premier ministre Seloud Alain Diallo et les forces de sécurité.
Covid-19 au Congo-Brazzaville, levée du couvre-feu et réouverture des frontières.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les délégations russes et ukrainiennes ont convenu d'un deuxième round de pourparlers après avoir quitté la table des négociations au Bélarus. Elles sont rentrées pour consultation dans leurs capitales respectives. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'un des négociateurs ukrainiens, Mykhailo Podolyak, a déclaré que les partis ont établi une série de priorités et de thèmes qui demandent certaines décisions avant la tenue d'une deuxième rencontre. Selon son homologue russe Vladimir Medinsky, cette nouvelle rencontre aurait lieu bientôt à la frontière polono-bélarusse. Les négociations qui ont commencé lundi portent sur l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe qui se heurte à une forte résistance des forces ukrainiennes. Dans un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine a conditionné tout règlement de cette guerre à une reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, ce qu'il appelle la dénazification, qualifiant le régime de Kiev de néo-nazi, ainsi que la démilitarisation de l'État ukrainien. Le Kremlin demande aussi un statut neutre pour l'Ukraine d'après la présidence russe. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis ne pas trop croire à des négociations fructueuses, appelant l'armée russe à déposer les armes.
Sur le terrain, l'armée ukrainienne a affirmé avoir repoussé plusieurs tentatives des forces russes de prendre d'assaut les abords de Kiev et elle dit que ces dernières bombardèrent Kharkiv, la deuxième ville du pays. De son côté, l'armée russe a assuré que les civils pouvaient quitter librement Kiev tout en accusant le pouvoir ukrainien de les utiliser comme boucliers humains.
Des images satellitaires montrent un immense convoi militaire russe qui s'étire sur 64 kilomètres au nord-ouest de Kiev. Et l'armée russe est arrivée aux portes de la ville de Kherson, dans le sud du pays, au nord de la Crimée, a déclaré le maire de la ville dans la nuit de lundi à mardi. Le bilan du conflit jusqu'ici reste incertain.
Les États-Unis ont relativisé hier le risque d'une confrontation nucléaire avec la Russie, assurant n'avoir constaté aucun mouvement concret au lendemain de la décision de Vladimir Poutine de mettre en alerte les forces de dissuasion de Moscou. Ils ont expulsé hier, pour espionnage, 12 membres de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU, une action dénoncée par Moscou comme une démarche hostile. Washington a aussitôt interdit toute transaction avec la Banque centrale russe.
L'ambassadeur de Chine à l'ONU a soutenu que le monde n'a rien à gagner d'une nouvelle guerre froide. Lors d'une session extraordinaire d'urgence hier de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée à l'invasion russe en Ukraine, le point avec Yacouba Ouedraogo.
La guerre froide est terminée depuis longtemps. La mentalité de guerre froide fondée sur la confrontation de blocs doit être abandonnée, a affirmé Zhang Jun à la tribune de l'Assemblée générale, assurant que tout le monde aurait à perdre d'un tel retour. La Chine, qui se refuse à condamner la Russie pour cet acte, a appelé lundi à la désescalade dans le conflit par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Weibin. Il a appelé les belligérants à rester calmes et à faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade. Pékin a refusé d'approuver vendredi la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant l'agression russe, mais n'a pas non plus voté contre en se réfugiant dans l'abstention. La Chine se refuse à parler d'invasion russe et a dit comprendre les demandes raisonnables de la Russie en matière de sécurité, reprenant à son compte les griefs de Moscou contre l'OTAN. La Russie est sur le banc des accusés depuis lundi, lors d'une session extraordinaire d'urgence des 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU appelés à se positionner à propos de l'invasion russe de l'Ukraine décidée par Vladimir Poutine.
Par ailleurs, la Chine a annoncé avoir commencé à évacuer ses ressortissants en Ukraine.
Face aux sanctions prises contre Moscou par différents pays, M. Poutine a annoncé des mesures drastiques pour soutenir le rouble en pleine dégringolade. Les résidents en Russie ne pourront plus transférer de devises à l'étranger et les exportateurs russes sont sommés de convertir en rouble 80% de leurs recettes en devises étrangères engrangées depuis le 1er janvier.
Des accusations de comportement raciste se multiplient aux frontières de l'Ukraine, des Africains affirmant avoir été empêchés de passer ou de monter dans les trains et bus se dirigeant vers la frontière. Et l'Union africaine se dit particulièrement préoccupée par de telles informations.
Le président sénégalais Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine et le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, rappelle que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, la période de transition avant un retour à l'ordre constitutionnel a été fixée à 3 ans, selon une charte signée ce mardi par le chef de la junte, le colonel Paul-Henri Edamiba, à l'issue des assises nationales. Il a été désigné président de cette transition et sera investi demain.
Burkina, toujours au moins 2 soldats burkinabés ont été tués, 20 blessés et 20 terroristes neutralisés hier lors d'une attaque dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Mali. Selon l'état-major des armées, l'attaque a visé la base du détachement mixte, soldats et gendarmes, de Toeni.
Des heurts ont opposé hier à Conakry, forces de sécurité et partisans de l'ex-premier ministre Sélou d'Alain Diallo, à qui la junte a ordonné, ainsi qu'à Sidia Touré, de quitter leur maison. C'est suite à une enquête lancée par les militaires qui ont fait de la lutte contre la corruption une priorité. Les détails avec Nani Talani.
Des centaines de jeunes partisans de M. Sélou d'Alain Diallo ont lancé des pierres aux forces de l'ordre à Ratoma, l'une des communes de Conakry où se trouve le siège de l'UFDG, le parti de M. Diallo. Les policiers ont répondu par des tirs de gaz lacrymogènes. Selon un ordre des nouvelles autorités, M. Diallo doit quitter son domicile de Dixine. Une décision similaire vise Sidia Touré, un autre ancien premier ministre. L'administration affirme que ses biens appartiennent à l'État. M. Diallo soutient que son domicile est un bien privé qui lui a été vendu par l'État en 2005 en accusant les autorités de s'en prendre à lui pour le détruire et nuire à son honneur et sa réputation. M. Diallo et Sidia Touré ont toutefois quitté les lieux. Plus tôt, un tribunal s'était déclaré incompétent pour statuer sur des recours qu'ils ont introduits. Une enquête vise parallèlement M. Diallo pour corruption et enrichissement illicite lors de la vente en 2002 de 2 avions et autres biens de la compagnie aérienne nationale Air Guinée. Sélou d'Alain Diallo, qui était alors ministre des Transports, réfute ces accusations.
Congo-Brazzaville, après une régression notable de l'épidémie de COVID-19, le gouvernement a annoncé hier la levée du couvre-feu en vigueur dans les 2 principales villes du pays, ainsi que la réouverture des frontières fluviales et terrestres. Rosine Monezero.
Le couvre-feu est totalement levé à Brazzaville et à Pointe-Noire. Cette mesure prend effet immédiatement, indique la coordination de gestion de l'épidémie dans un communiqué lu par Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement. La même coordination ordonne la réouverture des frontières terrestres et fluviales du pays. Depuis 2 ans, la traversée du fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa a été soumise à une autorisation spéciale. La reprise totale des activités sportives et de masse, puis la suppression des tests obligatoires jusqu'ici effectués lors de l'entrée sur le territoire congolais aux aéroports font également partie des mesures annoncées. Au Congo-Brazzaville, la proportion des personnes complètement vaccinées contre le COVID-19 est de 11,70% selon le gouvernement.
La Minute Éco, Jean-Roger Bion.
Le gouvernement sud-africain a accordé des permis annuels de chasse et d'exportation pour des dizaines d'animaux sauvages, dont 10 rhinocéros noirs en danger d'extinction et 10 léopards. La chasse a rapporté 92 millions de dollars en 2019 à l'Afrique du Sud. Les revenus annuels de la chasse sont destinés aux communautés rurales, marginalisées et pauvres dans les régions où ont lieu les chasses. Les utilisateurs d'Internet en Afrique vont bénéficier bientôt d'un accès plus rapide et d'une meilleure protection contre les cyberattaques. Cela grâce à l'installation de 2 grappes de serveurs racines par la société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet. Il s'agit pour l'ICANN du tout premier investissement de ce type en Afrique, dont le premier se fera au Kenya. Le géant public algérien des hydrocarbures Sonatrach est prêt à fournir davantage de gaz à l'Europe en cas de baisse des exportations russes avec la crise ukrainienne, en l'acheminant notamment via le gazoduc Transmed, reliant l'Algérie à l'Italie, a déclaré son PDG Toufik Akar au quotidien Liberté. L'Algérie prévoit d'investir 40 milliards de dollars entre 2022 et 2026 dans l'exploration, la production et le raffinage de pétrole ainsi que dans la prospection et l'extraction de gaz.
À présent, les sports avec Yacouba Ouidraogo.
Bonjour à tous. L'ex-défenseur vedette des Lions Indomptables, Rigobert Song, est le nouveau sélectionneur de l'équipe de football du Cameroun. Il succède ainsi au Portugais Tony Conceição. Les détails avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jelentap.
Rigobert Song a à ses côtés 3 anciens coéquipiers de la sélection nationale. Raymond Kala, désigné team manager, Augustin Simon, assistant coach, et Souleymanou Amidou, entraîneur des gardiens. Le nouvel encadrement est également composé de 3 techniciens français, parmi lesquels Sébastien Migné, nommé entraîneur-sélectionneur adjoint. Des changements opérés sur haute instruction du président de la République, selon un communiqué rendu public hier soir par le ministre des Sports. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, avait fait du départ de l'ancien sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceição, l'une de ses priorités au terme d'une réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Mais le ministre des Sports a semblé s'y opposer en précisant que le président de la République avait instruit le maintien du Portugais. Rigobert Song, âgé de 45 ans, est un ancien capitaine des Lions Indomptables avec 137 sélections. Le nouvel accadement technique sera à pied d'œuvre les 25 et 28 mars prochains face à l'Algérie, un match comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. La FIFA a suspendu des sélections nationales et des clubs russes jusqu'à nouvel ordre en réaction à l'invasion de l'Ukraine. L'annonce a été faite dans un communiqué commun avec la Confédération européenne de football, UEFA. Les Russes, hôtes du dernier mondial en 2018, sont donc disqualifiés des barrages de la prochaine édition qu'ils devaient disputer fin mars avec un billet en jeu pour le tournoi qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Désormais, leur sélection féminine ne pourra pas jouer l'Euro en Angleterre en juillet. Le Spartak Moscou, dernier club russe engagé en Coupe d'Europe cette saison, est lui aussi exclu. Il y a une semaine, la ville russe de Saint-Pétersbourg, qui devait abriter la finale de la Ligue des Champions, a été remplacée par Paris. Cette invasion de l'Ukraine par la Russie crée d'énormes difficultés aux sportifs évoluant en Ukraine. C'est le cas du footballeur sénégalais Pape Djibril Diaw, qui joue dans le championnat ukrainien Aruk Lvov en première division. Il a dû quitter l'Ukraine avec sa voiture pour rallier la France en passant par la Pologne, ensuite l'Allemagne. Joint au téléphone par notre consultant Amdinsi, Pape Djibril Diaw témoigne.
Nous, on a de suite essayé de quitter le pays parce qu'on sentait que ça devenait dangereux et qu'à tout moment, les bombardements pouvaient arriver à Lviv. Vers 14h, on a quitté pour arriver là-bas vers 16h. Et arrivé là-bas, on a vu qu'il y avait beaucoup de voitures, donc il fallait prendre son mal à patience. Finalement, on a réussi à traverser la frontière polonaise vers minuit. Nu était le fait qu'on avait une voiture, ça allait être très très difficile de passer la frontière.
L'international sénégalais Pape Djibril Diaw. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Milwaukee et Charlotte 130 à 105, Toronto et Brooklyn Nets 133 à 97, Miami et Chicago 112 à 99, Memphis et San Antonio 118 à 105, Orlando et Indiana 119 à 103, Minnesota et Cleveland 127 à 122.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'invasion de l'Ukraine sera ce soir au cœur du premier discours officiellement du président américain Joe Biden sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès, ici à Washington. Hier, la Russie était au banc des accusés à l'Assemblée générale des Nations unies, qui tient une réunion sans précédent depuis plusieurs décennies. Davantage de détails avec Arash Arabasadi de la VOA. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
La Russie est jugée ce lundi à l'Assemblée générale de l'ONU lors d'une session extraordinaire d'urgence de ses 193 membres. Cette réunion sans précédent depuis 40 ans a débuté par une minute de silence à la mémoire des victimes en Ukraine, puis les discours du président de l'Assemblée, Abdullah Shahid, et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une mise au vote d'une résolution est attendue à la fin des interventions et qui devrait se prolonger jusqu'à mardi, peu avant le premier discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden. L'Ukraine reste sous attaque des forces russes qui se frayent un chemin vers la capitale Kiev. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont renforcé ces derniers jours les sanctions contre l'infrastructure financière de la Russie dans l'émission This Weekend d'ABC. L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a expliqué ces sanctions.
Les sanctions que nous avons annoncées mettent la Russie sur un pied d'égalité avec l'Iran, la coupant d'un système bancaire mondial. Nous avons aussi sanctionné 80% de leurs banques et de leur secteur financier.
Conséquence immédiate de ces sanctions, la devise russe a fait un plongeon historique, s'échangeant à 100 roubles pour un dollar. Ce qui réveille les vieux démons de l'instabilité financière des années 1990, lorsque des millions de personnes ont vu leur épargne bancaire disparaître sous le double effet de la dévaluation du rouble et de l'inflation. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié ces sanctions d'inamicales. Dans l'émission This Weekend d'ABC, l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Oksana Markorova, a appelé les entreprises américaines à quitter la Russie.
Il s'agit d'une guerre injuste et je pense qu'il est temps pour de nombreuses entreprises américaines de repenser à sauver des réputations et à ne pas coopérer avec un régime qui se retrouvera à la haie pour tout ce qu'il a fait et fait maintenant en Ukraine.
Le sénateur républicain Tom Cotton, membre du comité des services armés, a déclaré dans l'émission ABC This Weekend que les sanctions de la Maison-Blanche ne vont pas assez loin.
Il est temps de retirer toutes les institutions financières russes du système de paiement international. Il est temps d'imposer des sanctions sur les exportations de pétrole et de gaz de Poutine, ce qu'il utilise comme principal moyen de soutien financier.
D'ailleurs, les ressortissants américains doivent envisager de quitter la Russie immédiatement par les options de voyage commercial ou encore disponibles selon le département d'État américain, prévenant que les options de vols commerciaux vont diminuer rapidement en raison des sanctions qui incluent la fermeture de l'espace aérien de nombreux pays aux avions russes. Le président Joe Biden doit prononcer son discours sur l'état de l'Union devant une session conjointe du Congrès.
Toujours concernant l'Ukraine, de nombreux Africains tentent de rejoindre les pays voisins pour fuir les violences. Arzouman Compaoré a pu joindre Haruna Zongo, président de la communauté burkinabé en Ukraine. Il explique comment il a réussi à atteindre la ville de Cracovie en Pologne.
La situation actuellement sur le terrain, c'est la tristesse, la désolation, parce que on n'a plus les nouvelles les uns des autres. Chacun essaie de regagner les pays frontaliers de l'Ukraine, en l'occurrence la Hongrie, la Pologne et la Moldavie. C'est très difficile de trouver un moyen de déplacement pour pouvoir quitter Kiev, par exemple, région Lviv, où il y a les frontières. Pour quitter la ville d'Lviv et arriver au niveau de la frontière, En temps normal, c'est moins d'une heure de route. Et ça ne coûte même pas 400 grivres, l'équivalent de 12 dollars. Mais avec la crise, ben, pour pouvoir atteindre la frontière, il faut débourser 200 dollars, voire 250 dollars, pour pouvoir atteindre juste la frontière. Et là encore, vous descendez, vous devez marcher encore une vingtaine de kilomètres pour pouvoir arriver au niveau de la frontière. Les cartes bancaires ne fonctionnent plus, et il n'y a pas de liquidité dans les distributeurs de billets. On a passé à peu près deux jours à la frontière avant de pouvoir passer. Des Congolais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens, on était vraiment beaucoup.
Quelle autre difficulté vous avez pu rencontrer pendant cette traversée?
Il y a pas mal de nos compatriotes qui sont actuellement à la frontière, qui ne peuvent pas traverser parce que hier, par exemple, il y a eu un désordre au niveau de la frontière polonaise avec la communauté noire, parce que il y a une forme de discrimination où il faut prioriser les Ukrainiens à sortir, mais quant aux Africains, ben c'est très difficile et nous sommes négligés à la limite. On ne dirait pas qu'il y a une forme de racisme là-bas, mais bon, c'est très difficile pour les étrangers. Et il faut dire qu'il y en a aussi qui, pour des raisons familiales, comme les familles étant grandes avec des enfants, qui refusent pour le moment de quitter, qui sont encore là-bas, qui refusent de quitter, qui veulent voir l'évolution de la situation. Et qui disent qu'ils ne peuvent pas prendre les enfants, courir, parce qu'il faut vraiment marcher sur une longue distance.
Est-ce que vous avez été contacté par les autorités burkinabées?
Nous avons été contactés par l'ambassade de Burkina Faso à Moscou, qui nous ont envoyé une correspondance pour dire qu'ils sont en train de discuter avec Ouagadougou. Mais concrètement, on attend encore de voir un soutien de la part des autorités burkinabées.
Joint hier, lundi, Haruna Zongo, président de la communauté burkinabé vivant en Ukraine.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le conflit en Ukraine et ses retombées au plan international. La Russie a finalement envahi son voisin après des semaines de tensions à la frontière. Moscou dit avoir agi pour sa propre sécurité alors que Kiev revendique le droit de se choisir ses alliés. Une crise au cœur de l'Europe qui suscite de nouvelles inquiétudes sur ses conséquences sécuritaires et économiques au-delà du vieux continent. Comment en est-on arrivé là? Quelles répercussions dans le reste du monde, y compris en Afrique? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Nous vous le disions en première partie de cette édition, au Congo-Brazzaville, les autorités ont supprimé le couvre-feu et l'obligation des tests PCR à l'entrée dans le pays. D'autres mesures, comme l'ouverture des boîtes de nuit et la pratique du sport de masse, ont également été annoncées, mais la vaccination reste obligatoire. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
C'est à l'issue de la réunion de la Coordination nationale de lutte contre la COVID-19, dirigée par le président Denis Sassou Nguesso, que le ministre Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, a annoncé la fin d'une batterie de mesures en vigueur dans le pays depuis 2 ans. La suppression du couvre-feu et des tests PCR à l'embarquement comme à l'arrivée à Brazzaville et à Pointe-Noire passe en premier. Thierry Mungala.
La levée totale du couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire, c'est-à-dire sa suppression. Cette mesure prend effet immédiatement. La levée de la mesure de fermeture des boîtes de nuit et autres espaces clos et de loisirs qui pourront désormais rouvrir. Les tenanciers et gérants de ces établissements devront cependant exiger de leurs clients la présentation de la preuve de leur vaccination. La suppression des tests obligatoires jusqu'ici effectués lors de l'entrée sur le territoire congolais. Enfin, la réouverture totale des frontières terrestres et fluviales.
Dans les rues de Brazzaville, où la population a longtemps appelé à la levée de ces mesures, les réactions ne se sont pas fait attendre.
On commençait à en avoir un peu marre de toutes les tracasseries. Il faut faire des tests PCR, il faut faire des tests à l'arrivée, par exemple quand on quitte l'Europe ou le Congo. Donc là, ça va être vraiment un soulagement. non seulement pour nous les artistes, mais aussi pour le public.
Depuis longtemps, la population n'attendait que la levée totale du couvre-feu. Vous avez à côté des femmes qui ne vivent que des activités génératrices de revenus, le secteur informel, ceux qui tenaient des boîtes de nuit.
Après beaucoup de mois d'attente et de revendications, nous n'avons cessé, micro, de demander la levée de ce couvre-feu qui n'avait que trop duré et qui malheureusement a contribué à la chute de beaucoup d'activités, beaucoup d'entrepreneurs.
Mais une partie de la communauté scientifique nationale se pose des questions sur des points d'ombre qui n'ont pas été levés par le gouvernement. La professeure Francine Toumi, qui travaille sur cette pandémie dès le début, s'interroge sur l'appel à la vaccination lancé par ailleurs par les autorités.
L'obligation ou la vaccination. Je suppose là aussi que cette décision est prise sur le fait que l'immunité collective a été atteinte. Et je suis d'accord avec cela parce que nous avons conduit donc une étude où nous conduisons des études depuis le début de la pandémie et nous avons montré qu'en septembre-octobre, on était déjà à plus de 60% de la population au niveau en tout cas de Brazzaville qui aurait déjà rencontré le virus. Mais alors pourquoi se vacciner? Il faut expliquer pourquoi.
En 2 ans, la pandémie a fait 375 décès sur plus de 23 000 cas de contamination. Les artistes sont ceux-là qui auraient payé le lourd tribut, car depuis là, ils n'ont plus donné des spectacles en public. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
La Somalie n'a pas réussi, une fois de plus, à respecter la date pour l'achèvement des élections longtemps repoussées. L'Assemblée consultative nationale du pays, qui est présidée par le Premier ministre Mohamed Hussein Roblé, a prolongé la date pour l'achèvement des législatives au 15 mars, alors qu'elles étaient prévues le 25 février. Les États-Unis ont donc imposé des restrictions de visa à un certain nombre de responsables somaliens, soupçonnés d'entraver le processus électoral, y compris donc des dirigeants régionaux, C'est un reportage réalisé par Mohamed Cher Nour à Mogadiscio. Le récit est de Rosine Mounezero.
Dans un communiqué de presse annonçant des restrictions de visa ciblant certains Somaliens dont les noms n'ont pas été cités, les États-Unis exigent l'achèvement rapide des élections législatives et présidentielles de manière transparente et crédible. Selon les responsables américains, l'interdiction de voyager vise à promouvoir la responsabilité et à punir ceux qui entravent le processus électoral. Hassan Barissé, journaliste qui se présente aujourd'hui à la présidence, soutient l'interdiction.
Nous apprécions la décision des États-Unis d'Amérique et nous apprécions également tout autre effort qui soutiendrait le processus électoral de la Somalie.
Il ajoute que les conséquences de retard continu peuvent créer des problèmes irréversibles, détruisant les progrès récents. Monsieur Balissé estime également que les Nations Unies et d'autres partenaires internationaux devraient exercer davantage de pression pour sanctionner les personnes qui sabotent le processus électoral. Pour Mohamed Adé, militant somalien, des sanctions plus sévères sont nécessaires.
Cela fait un certain temps que cela aurait dû être fait. Les États-Unis d'Amérique et le reste de la communauté internationale ont dépensé beaucoup d'argent pour établir un système démocratique dans ce pays. Un certain nombre de politiciens somaliens semblent traîner les pieds lorsqu'il s'agit d'organiser des élections indirectes.
Pour M. Adé, les fauteurs de troubles doivent être nommés et faire l'objet de poursuites judiciaires. Selon lui, le processus électoral est lent et les Somaliens en ont assez et il est urgent de prendre des mesures drastiques. À Mogadiscio, il existe un large consensus sur l'imposition de restrictions en matière de visa aux dirigeants somaliens afin de les empêcher de se rendre aux États-Unis, où résident un grand nombre de familles d'hommes politiques somaliens qui possèdent parfois la double nationalité.
Merci Rosine. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Nathalie Barge. À la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi. Et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.